Chapitre 34. Avec le crépuscule, un vent froid venu du large s'est mis à souffler en continu. Dans la rue principale déserte, Rognard rase les façades, tel un voleur. Il progresse d'un renfoncement sombre à l'autre, s'assurant chaque fois que la voie est libre avant de repartir. Ce soir, dans le village, le roulement des vagues résonne avec un écho plus intense que d'habitude. Chris remonte le col de son ciré et poursuit vers le port. Évitant les zones éclairées par les rares réverbères, il se méfie aussi des habitations. Comme au soir de son arrivée, elles ressemblent à des monstres assoupis. Mais ce ne sont plus tant leurs formes qui provoquent cette sensation que l'esprit menaçant qu'elles abritent souvent. Les bêtes ne dorment cependant que d'un œil, et les silhouettes qui passent à l'intérieur devant les fenêtres allumées sont comme les pupilles de leurs regards scrutateurs. Plus que d'être aperçu, Chris redoute de se faire surprendre par Kate. Il ignore dans quelle zone elle patrouille, mais si elle lui tombe dessus, elle pourrait bien le prendre pour l'assassin qui rôde et lui tirer une balle dans le genou. De toute façon, même sans ça, il aurait bien du mal à justifier sa présence. Les portes du hangar à bateaux sont closes, et la vitrine de Ferguson éteinte. En débouchant sur le port, Rognard accélère en direction du phare. La haute silhouette, blanc et noir, domine les embarcations amarrées. Son faisceau cadence la nuit. Bien que ne s'étant encore jamais aventuré dans ce secteur, Chris n'hésite pas sur la voie à suivre, car il n'y en a qu'une. Une allée, taillée, qui grimpe à flanc de rocher, dont les degrés se raccourcissent à mesure que la pente augmente. La dernière partie n'est plus qu'un escalier raide qui s'enroule autour du promontoire sur lequel est bâti l'édifice. En haut des marches, il débouche au pied du phare, sur une terrasse ceinte d'un garde-corps dont les poteaux rouillés supportent une chaîne suffisamment lourde pour que le vent ne joue pas avec. Faisant le tour de l'esplanade pour vérifier que le jeune commis n'est pas déjà arrivé, Christopher reçoit quelques nuages d'embrun, mais ne rencontre personne. Si étonnant que cela paraisse, en se rendant à ce mystérieux rendez-vous, il n'a pas peur de se jeter dans la gueule du loup. Son instinct lui assure que même s'il ignore tout des intentions du jeune homme, il n'a rien à en craindre. Chris sait exactement ce qu'en dirait Kate. Il entend déjà le sermon qu'elle ne manquerait pas de lui faire. Une entrevue secrète, la nuit, sans témoin, dans un endroit à l'écart, avec un inconnu dont il ne sait rien, c'est la parfaite description d'un traquenard. Chris s'adosse au phare et patiente. Il s'est posté là où il peut se protéger au mieux du vent tout en gardant l'escalier en ligne de mire. Le balai hypnotique du faisceau illumine cycliquement le port où oscillent les bateaux. Un grincement tout proche l'alerte soudain. Il se plaque contre le mur. La porte du phare vient de s'ouvrir. Une tête en émerge et chuchote. « Monsieur Rognard, vous êtes là ?» Chris reconnaît la voix du jeune homme de l'épicerie et s'avance. « Vous n'avez pas été suivi ?» s'inquiète aussitôt celui-ci. « Je ne pense pas. Entrez vite !» Ce n'est qu'après avoir refermé la porte que le commis allume la lumière. Il ne porte plus sa blouse bleue mais un jean et un sweat. « Merci beaucoup d'avoir pris mon invitation au sérieux, » dit-il, visiblement sincèrement soulagé que Chris soit venu. « Franchement, je n'y croyais pas. Vous demandez de vous aventurer ici, seul, la nuit. Vous avez dû me prendre pour un dingue. Ça semblait important. Ça l'est. Mais après coup, je me suis dit que vous alliez vous méfier, et je l'aurais compris. Je suis là. » Bien que ne connaissant même pas votre nom. Sam Ferguson. Il se serre la main. De la famille du quincaillier? Nos lointains ancêtres étaient frères, mais hormis le nom, nous ne partageons plus rien. Depuis le rez-de-chaussée circulaire du phare, un escalier en colimaçon monte vers le sommet. Mais le garçon ne s'y engage pas et rejoint une pièce exiguë dont l'unique fenêtre a été occultée. L'aménagement tire profit de chaque centimètre carré. Les meubles sont sommaires, anciens, mais ont été fabriqués sur mesure pour épouser la forme arrondie des murs. L'endroit devait à la fois faire office de chambre et de bureau. Au mur, des câbles électriques relient d'imposants interrupteurs à levier. « Vous y vivez ici ?» s'étonne Christopher. « Je viens m'y réfugier de temps en temps. Depuis que le phare a été automatisé, plus personne n'y met les pieds. Vous savez, même dans un village paumé, les coins où on vous fiche la paix sont plus rares qu'on ne pourrait le penser. » Le jeune homme propose à Chris la seule chaise disponible, mais celui-ci refuse poliment. « Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ?»« Vous allez trouver ça bizarre, mais un choc sourd les interrompt. Un second plus feutré suit immédiatement. Ça bouge derrière l'autre porte donnant dans la pièce. Chris se tend et Sam blêmit. « Qu'y a-t-il là-dedans ? » demande Rognard sur ses gardes. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Chris cherche déjà de quoi se défendre, mais le potentiel est limité. La meilleure tactique consisterait à bloquer la porte pour empêcher qu'un complice ne déboule. La mine tout à coup suspecte du jeune Ferguson l'inquiète au moins autant que les bruits. Chris se juge soudain stupide et inconscient d'être venu. Il a commis une erreur de débutant qui risque de lui coûter cher. Cette fois, il est d'accord avec Kate. Il en touchera deux mots à son instinct. « Sam, répondez, qu'y a-t-il derrière cette porte ?» Il croit à présent distinguer des sanglots. Le jeune Ferguson se décompose. Il n'a pas du tout l'air de vouloir s'en prendre à Chris. « S'il vous plaît, monsieur, le supplie Sam. N'ouvrez pas, je sais que... » Christopher tourne déjà la poignée. Dans un minuscule cabinet de toilette, une jeune fille est recroquevillée au sommet d'un matelas roulé. Elle cache son visage entre ses bras pour pleurer. « Je vous en supplie, s'interpose Sam. Ne dites à personne que vous nous avez vus. » Le jeune homme vient enlacer la demoiselle et la serre contre lui. Elle se blottit contre sa poitrine. Ils sont terrifiés. « Promis, je ne dirai rien, mais expliquez-moi. » Cramponnée à Sam, la jeune fille reproche. « Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Nous n'aurions pas dû nous voir ce soir. » « Je ne pensais pas qu'il viendrait, se défend celui-ci. Si tu n'avais pas fait de bruit, M. Rognard n'aurait rien su. Ce n'est pas de ma faute, le matelas a glissé. Qu'allons-nous devenir maintenant ?» Chris agite la main. « Hello, les jeunes, excusez-moi, mais je suis là. » Sam caresse les cheveux de sa petite amie pour essayer de l'apaiser. « Je n'aurais rien su de quoi ?» insiste Chris. « Je viens de vous promettre de me taire. » Marie est la plus jeune des sœurs Reed, explique Sam, en essuyant tendrement les larmes de la jeune fille. Nos familles ne s'entendent pas, c'est peu de le dire. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, mais personne ne le sait. Personne ne doit l'apprendre. Son grand-père a été le dernier gardien de ce phare, c'est comme ça que nous avons récupéré la clé. Il fixe Christopher. Vous devez nous jurer de garder notre secret, il en va de nos vies. Marie gémit, tétanisée. Comme un animal piégé, elle lance des coups d'œil affolés à Rognard, qui fait de son mieux pour les rassurer. « Ne vous en faites pas, je tiendrai ma langue. » Il fronce malgré tout les sourcils. « On vous interdit de vous fréquenter ?» Marie lâche sur un ton où la révolte se mêle à la détresse. « Il préférerait nous voir morts plutôt qu'ensemble. » Chris secoue la tête. Il fait signe aux deux jeunes gens de s'extraire du réduit et offre la chaise à Marie. J'en suis désolé pour vous. Marie est infirmière, précise Sam. Elle faisait ses études à Glasgow. Elle les a interrompues quand sa mère est tombée malade pour revenir s'occuper d'elle. De quoi souffre votre maman ? Je suis persuadé qu'elle n'a rien, s'insurge Marie. Mon père me met la pression et elle en fait des tonnes pour me retenir à la maison. Mais elle n'est jamais fatiguée quand il s'agit de dire du mal des autres et de la famille de Sam en particulier. Sam approuve et souligne. Savoir qui a tort ou qui a raison ne nous intéresse pas. C'est d'ailleurs sans doute devenu impossible. Si on en avait les moyens, on s'enfuirait d'ici. Chris les observe, qui ne se lâche pas. Marie sèche ses dernières larmes et confie. Ma grande sœur aussi a fréquenté un garçon de la baie d'une autre famille. Au début, ils ne se cachaient pas, mais les deux clans le leur ont fait payer. Ils ont eu beau répéter qu'ils n'avaient rien à faire de rancœur qui date des diplodocus, cela n'a rien changé. Au contraire. Ils leur ont pourri la vie. C'est allé tellement loin qu'ils ont fini par s'en prendre physiquement à son copain et l'ont laissé pour mort. Alors avec Sam, on a retenu la leçon et on se cache. Chris s'adresse au jeune homme. « Si vous ne comptiez pas me parler de votre couple clandestin, qu'aviez-vous à me dire ?»« Je voulais vous demander de rester, d'aller au bout de votre démarche. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Vous savez désormais pourquoi j'y tiens tant. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. » J'entends beaucoup de choses au magasin et Marie soigne ceux qui n'ont pas sombré dans la paranoïa ambiante au point d'avoir peur qu'elle ne les tue avec une pilule ou une seringue. La jeune fille intervient. Votre arrivée a tout changé. Je n'avais jamais vu mes parents dans un tel état. Ils sentent que la situation leur échappe. Vous, personne ne vous contrôle. Tous vous voient comme le grain de sable dans la mécanique de leur petite magouille. Sam hoche la tête. Même son de cloche chez moi. Votre présence effraie, et d'après ce que nous avons compris, vous leur avez balancé leurs 4 vérités. Ça leur a fait tellement d'effet que pour la première fois, les deux branches de ma famille se sont reparlées. Je n'étais même pas né la dernière fois qu'ils l'avaient fait. Toujours heureux d'être utile. Oui, enfin, ils font bloc avec l'idée de se débarrasser de vous. Charmant. Dès qu'ils auront réussi, ils recommenceront leur guéguerre comme avant, et ça ne s'arrêtera jamais. « Vous n'allez pas repartir ?» s'inquiète Marie. « Je n'en ai pas l'intention. Quand vous dites que vous pouvez m'aider, avez-vous connaissance d'éléments susceptibles de démêler le sac de nœuds ? Vos proches sont-ils impliqués dans les meurtres ou dans la recherche d'un trésor ?» Marie réagit aussitôt. « Dénoncer les miens ne me poserait aucun problème si je les savais coupables, mais on ne nous dit rien. »« C'est vrai, » renchérit Sam. « Trop jeune pour savoir, mais assez grand pour subir. » On est tenu à l'écart de tout et on le sera jusqu'à nos 20 ans. Vos 20 ans? Pourquoi cet âge? Aucune idée, encore une de leurs traditions. Vous êtes conscient que ce ne sont pas les histoires d'amour qui ont façonné la baie. Le passé doit-il nous coûter notre avenir? Réplique Marie. Devons-nous renoncer à nos sentiments parce que d'autres ont commis des fautes? Christopher secoue la tête fataliste. Ne serait-il pas plus raisonnable d'envisager de partir? Je sais, ce n'est pas juste, mais... Ailleurs, la vie serait plus simple et vous pourriez vous aimer librement. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette. Les deux meurent à la fin, rétorque Sam. Nous n'avons pas l'intention de finir comme eux. Bien sûr que nous avons songé à nous enfuir. Dans un premier temps, ça marcherait certainement, mais pas longtemps. Et vous savez pourquoi? Pas les moyens? Le jeune homme consulte son ami du regard et lance. Pas seulement, c'est bien autre chose. Venez, je vais vous montrer. Sam se lève d'un bond, entraînant Marie par la main. Il quitte la pièce et se lance dans l'escalier en colimaçon. « Suivez-nous, monsieur Reignard, montez !» Les deux jeunes grimpent les marches 4 à 4, suivis par Chris. Après l'escalier, ils enchaînent avec une échelle jusqu'à une trappe qu'ils soulèvent. L'ouverture débouche dans la lanterne du phare, saturée de lumière. Sam tend la main à Chris pour l'aider à se hisser sur les 3 paliers. « Protégez vos yeux, prévient-il, évitez le rayon. » Il fait une chaleur accablante là-haut, et le bruit du mécanisme de rotation des caches et des lentilles ronfle dans le local vitré. Sam ouvre une petite porte donnant sur l'extérieur et fait signe à Chris et Marie de le suivre. Tous 3 sortent sur la couronne qui surplombe le vide. Grâce à la chaleur de la lampe, il fait étonnamment bon en dépit du vent. La sensation de vertige dissuade Christopher de regarder vers le pied de la tour et la mer qui se fracasse sur les rochers. Sam lui prend les mains et les accroche au garde-fou. Ne le lâchez jamais. Étourdi, grisé, Reignard prend l'ampleur de la vue qui s'offre à lui. Le vaisseau qui tourne juste au-dessus de leur tête révèle la baie dans un balai féerique. Sans jamais s'arrêter, la vague de lumière caresse reliefs et constructions, les illuminant de sa formidable intensité. Sam ouvre les bras. Regardez, monsieur Reignard, c'est chez nous. C'est un endroit magnifique, et nous avons le droit d'y vivre. Pourquoi devrions-nous fuir? Parce que des brutes cupides ont décidé d'en faire leur champ de bataille? Lorsque le faisceau effleure la falaise au visage, ceci se découpe bien plus clairement qu'en plein jour. Chris est fasciné. Le passage de la lumière semble les animer. Il faut plusieurs tours à Reignard pour repérer sa maison et Hanford Manor. Les jeunes amants l'encadrent. Marie, les cheveux affolés par le vent, lui souffle. Cette baie est comme notre planète, monsieur Reignard. Nous n'allons pas y renoncer parce que les pires d'entre nous la détruisent en s'en croyant propriétaire. Je veux pouvoir y vivre en paix avec Sam. Les yeux de la jeune fille brillent intensément dans la clarté du faisceau. Reignard y perçoit quelque chose qui le fait aussitôt réagir. Il n'avait pas vu cela depuis longtemps. Une soif de vivre, un élan d'espoir associé à une volonté farouche. Cette étincelle réveille en lui des instants oubliés. La dernière fois qu'il a capté cette énergie, c'était dans les yeux de son frère. Il se redresse. « Tenez bon, ne renoncez à rien. Que je réussisse ou pas, vous avez les meilleures raisons qui soient pour vous en sortir. Faites-vous confiance, ne laissez ni les traditions, ni les préjugés se glisser entre vous. Si à un moment vous avez besoin de moi, ma porte vous est grande ouverte. Vous serez toujours les bienvenus. » Au loin, le faisceau repasse sur les visages de la falaise qui, dans l'éclat de lumière, paraissent se tourner vers Chris pour le regarder.